Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. À Londres, la bourse semble croire au Remain et elle clôture sur un bond de 1,23% ce jour de référendum. Aucun indice sur la participation, mais nous rejoindrons Catherine Dutu outre-Manche pour savoir comment se déroule ce vote crucial pour les Britanniques et pour l'Europe. En France, la vraie fausse manifestation de la Bastille s'est déroulée dans le calme. Relativement peu de monde pour protester contre la loi travail dans la capitale. Violette Voldoir nous dira que le cortège était sur-sécurisé. Et puis dans cette édition, nous nous arrêterons aussi sur le sort réservé aux anciens mineurs de 1948, injustement licenciés à l'époque après une grève et partiellement indemnisés par les socialistes depuis le départ de Christiane Taubira. Leur dossier est au point mort. 18h20, du grain à moudre avec vous Hervé Gardette.
Jusqu'où pousser la préférence nationale? Nous en discuterons avec Serge Slama, Saber Mansouri et Nicolas Bay.
A tout à l'heure. Mais d'abord, partons donc pour l'Allemagne, où apparemment il y a eu plus de peur que de mal. Un homme armé s'était retranché dans un cinéma. Il aurait été abattu par la police. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Vous êtes à Berlin. Alors les faits se sont déroulés, Cyril, dans une ville du Land de Hesse. Que sait-on vraiment ce soir, Cyril ?
Alors d'abord une confirmation, le tireur est mort, il a été abattu par les forces de l'ordre, les forces spéciales du SEK, c'est ce que déclare ce soir le ministre de l'Intérieur du Land de Hesse. Autre information, il n'y aurait pas de victimes, les médias allemands évoquaient d'abord un bilan de 25 blessés, mais ces blessures légères seraient dues non pas à des tirs, mais à des gaz lacrymogènes. Il était 15h environ lorsque le forcené a fait irruption dans le cinéma Kinopolis, un multiplex situé à Viernheim, une localité au sud de Francfort. Armé et cagoulé avec une ceinture de cartouches à l'épaule, il tire plusieurs coups en l'air avec un fusil d'alarme, semant la panique parmi les clients. La plupart réussissent à s'enfuir immédiatement. La police boucle le périmètre, mais à l'intérieur, le forcené se retranche avec des otages. Il n'aura pas le temps de faire des victimes. Vers 17h, donc l'homme est tué par la police. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur ce qui s'est passé cet après-midi. On ne sait rien, en revanche, du profil du tireur ni de ses motivations.
Vous allez peut-être me dire quand même, moi j'ai lu qu'il était peut-être déséquilibré, c'est ce que disait l'AFP tout à l'heure. Est-ce que vous avez des précisions ?
Pas de confirmation là-dessus pour l'instant.
Il faut donc rester très prudent.
Les médias évoquent plusieurs pistes contradictoires, mais absolument aucun élément officiellement confirmé par les autorités allemandes pour l'instant.
Merci beaucoup Cyril Sauvageau, en direct de Berlin. C'est donc le D-Day, mais ce ne sera pas forcément l'Independence Day, comme le souhaite le camp du Leave. C'est en tout cas l'heure de vérité, outre-Manche, où depuis 7h ce matin, les bureaux de vote sont ouverts. Les électeurs ont le choix entre laisser le Royaume-Uni amarré à l'Union européenne, avec plusieurs avantages et aménagement que David Cameron a réussi à négocier, ou bien décider de larguer les amarres et de s'engager vers l'inconnu, car il faudra renégocier pendant au moins 2 ans les relations entre Londres et les 27. Le suspense est pour l'instant total en Angleterre, où vous vous trouvez. Bonsoir Catherine Dutu.
Bonsoir.
On ne connaît même pas encore la participation à ce référendum. Catherine, tout juste peut-on lire un sondage qui est paru ce matin vers 10h et qui donnait 52% au camp du Remain ?
Une courte avance pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, 52%, vous le disiez, 48% en faveur du Brexit, selon un sondage Ipsos Mori Evening Standard, publié aujourd'hui, certes, mais réalisé avant le début du vote. De quoi redonner des couleurs à la mi-journée au cours de la livre face au dollar et à l'euro, signe que les marchés tablent davantage sur une victoire du camp du maintien dans l'Union européenne. Mais toujours selon ce sondage Ipsos Mori Evening Standard, 12% des électeurs seraient indécis. Alors, pour tenter de les convaincre, Alistair fait campagne jusqu'à la dernière minute en faveur du Remain à la sortie du métro de South Kensington à Londres.
Hello, I'm campaigning to keep Britain in the European Union.
Okay. T-shirt bleu avec le slogan I'm in écrit en blanc et rouge pour figurer le drapeau britannique et le maintien dans l'Union européenne. Alistair propose aux passants d'afficher leur soutien au camp du Remain avec des autocollants. Sarah, une artiste plasticienne de 37 ans, accepte de bon cœur.
Because I voted in.
Parce que j'ai voté en faveur du maintien et je veux que tout le monde le voie. Avec un peu de chance, je pourrais influencer des gens. Je ne trouve pas une seule bonne raison de quitter l'Union européenne. Le système n'est peut-être pas parfait, mais c'est une institution très importante. Ce qui compte pour moi, c'est la paix, la libre circulation des personnes. Tous mes collègues voyagent en Europe et beaucoup de mes collègues à Londres sont européens. Donc, pour des raisons égoïstes, je suis pour le maintien dans l'Union européenne parce que cela me permettra de continuer à travailler et de manière désintéressée mais je pense que rester serait le mieux pour tout le monde.
De quoi redonner le sourire à Alistair, ce militant pro-européen engagé pour la première fois en politique.
Il est crucial de venir faire campagne, de persuader les gens d'aller voter, et pas seulement pour rester dans l'Union européenne, mais pour la réformer, au mieux, une fois que ce vote sera passé, pour soutenir la démocratie en Europe de l'Est, par exemple. Et nous devrions rester pour améliorer les choses. Alors partout où nous pourrons trouver des gens en nombre, nous irons les voir, pour les convaincre de voter en faveur du maintien dans l'Union européenne. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'à 10h05.
John, lui, ne se laisse pas convaincre. Ce père de famille de 32 ans veut sortir de l'Union européenne.
Parce que je pense que le Royaume-Uni serait plus fort, indépendant. On aurait plus d'échanges commerciaux dans les pays du Commonwealth plutôt qu'avec l'Union européenne. Et je n'apprécie pas que des gens prennent des décisions à notre place. Donc ce serait bien de reprendre notre liberté.
Les 46 millions d'électeurs britanniques ont jusqu'à ce soir 22h pour voter, 23h heure française, résultat attendu au petit matin.
Merci beaucoup Catherine Dutu, en direct de Londres avec Georges Thau pour les moyens techniques. Et François Hollande, le président français, sera à Berlin lundi chez Angela Merkel pour tirer les conclusions de ce référendum. Dans la foulée des Britanniques, un autre peuple pourrait dire son sentiment sur l'Union européenne. Justement, il s'agit de la Turquie. Le président Erdogan vient en effet de proposer la tenue, lui aussi, d'un référendum. Bonsoir Aude Razo.
Bonsoir.
Alors, il s'agit d'un simple projet pour l'instant, mais l'idée serait de vérifier ce que pensent les Turcs du processus d'adhésion à l'Union européenne, processus qui a bien du mal à être relancé.
Effectivement, les discussions sur l'adhésion de la Turquie doivent reprendre dans une semaine et clairement, Recep Tayyip Erdogan joue là la provocation. Pourquoi traînez-vous autant, a-t-il lancé hier soir à l'adresse de l'Union européenne, une union qu'il accuse de ne pas vouloir de la Turquie, car elle est un pays à majorité musulmane. La candidature d'adhésion, il faut le savoir, remonte à 1987. Les négociations, elles, n'ont commencé qu'en 2005 et ça n'avance pas. Il y a 3 mois, Angela Merkel déclarait qu'une entrée de la Turquie n'était absolument pas à l'ordre du jour. Cette question a agité aussi le débat autour du Brexit au Royaume-Uni pendant toute la campagne. Le camp pro-Brexit a brandi comme une menace la perspective de cette adhésion, ce qui a obligé David Cameron, le Premier ministre, à préciser que ça ne se concrétiserait pas, je cite, avant l'an 3000. De quoi évidemment agacer Ankara, qui accuse l'Union européenne d'hypocrisie. Et là, on ne parle plus seulement des négociations d'adhésion. Depuis l'accord sur les réfugiés en mars, les crispations, les frustrations se multiplient, s'imbriquent les unes aux autres. Il y a le dossier brûlant de l'exemption des visas pour les Turcs. Là encore, l'Union européenne est accusée de traîner des pieds. Ces accusations répétées trouvent un écho dans la population turque. Depuis quelques années, de moins en moins de Turcs se déclarent en faveur d'une adhésion à l'Union européenne.
Merci Aude Razo. Autre pays en délicatesse avec les instances cette fois de l'Union européenne, mais qui en est membre. La Hongrie vient d'être sanctionnée. La Cour européenne des droits de l'homme condamne Budapest à verser 70 000 euros de dédommagement moral à l'ancien président de la Cour suprême hongroise. Le magistrat avait été limogé 3 ans et demi avant le terme de son mandat pour avoir critiqué, c'était en 2012, des réformes voulues par Viktor Orban, notamment dans le domaine judiciaire, réforme qui équivalait, avait-il dit, à une purge dans la magistrature. Le juge Baca avait alors été démis de ses fonctions, sans possibilité en plus de contester ce fait. La Cour européenne des droits de l'homme lui donne raison, Budapest ayant déjà fait appel. Cette deuxième sanction est définitive. Une rixe en Grèce qui tourne au drame sur l'île de Lesbos, où attendent encore 8500 réfugiés en ce moment. Une bagarre a éclaté dans le centre d'accueil de Chios. Un demandeur d'asile égyptien a été tué par un de ses compatriotes. Un deuxième réfugié égyptien est blessé. En France, un mini parcours pour une petite manifestation ultra sécurisée autour de la Bastille. Voilà à quoi ressemblait cette nouvelle journée de mobilisation, au moins dans la capitale, contre la loi travail. Entre 20 000 donc et 40 000 personnes ont défilé, si on peut dire, autour de l'Arsenal, dans le calme. C'était d'ailleurs l'objectif majeur du gouvernement. Bonsoir Violette Voldoir.
Bonsoir Tara.
Pas de grande affluence et pas de violence non plus. C'est à peine si on peut vraiment parler d'une manifestation.
Oui, et pourtant le cortège est parti aux alentours de 14h d'une place de la Bastille surchauffée par un soleil de plomb. Les syndicats étaient précédés par une grande banderole de nuit debout dans une ambiance plutôt bon enfant. Et à peine trois quarts d'heure plus tard, les derniers à se mettre en branle et à quitter la place de la Bastille pouvaient déjà saluer ceux qui étaient en train d'arriver de l'autre côté du bassin de l'Arsenal et qui arrivaient sur la place de la Bastille. On tourne en rond, c'est n'importe quoi, c'est surréaliste, disaient la plupart des manifestants. Mais pourtant, c'était important de venir manifester. Mais pour faire des tours de manège comme ça, c'était la dernière fois, a ainsi martelé au micro Olivier Besancenot, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste tout à l'heure. Un sentiment partagé par beaucoup de manifestants également agacés par le très impressionnant dispositif policier mis en place avant même l'arrivée sur la place de la Bastille.
Pour aller à la place de la Bastille, j'ai été contrôlé à peu près 7 fois. On nous a fouillé, on nous a empêché de prendre des écharpes pour aller sur la place, de prendre notre banderole parce qu'il y avait du bois, toutes les lunettes, on nous les a prises. Ils ont fait des photos des cartes d'identité. Ils nous ont dit vous pouvez prendre notre numéro de matricule, ce qu'on a fait. Et donc on va voir si un recours est possible, mais malheureusement on n'y croit pas trop dans ces cas-là.
Comme Camille, participant à Nuit Debout, des dizaines de personnes ont ainsi été fouillées. Moi-même, j'ai été fouillée en arrivant dans cette manifestation. 95 personnes ont également été interpellées, dont la plupart dans des rues adjacentes à cette manifestation, par des policiers dont certains en civil ont surpris les manifestants, car ils ne portaient aucun signe distinctif, ni brassard, ni matricule apparent. Alors ce préfiltrage a été efficace, car selon la préfecture de police de Paris, il n'y a eu aucune dégradation autour de cette toute petite manifestation. Les syndicats ont bien respecté le plan de dispersion prévue, mais surtout le terrain avait été bien préparé dès ce matin. Et malgré tout, cela n'a pas empêché quelques confrontations verbales entre les manifestants et les forces de l'ordre.
Cassez-vous, 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 cassez-vous.
Merci, cassez-vous, Violette Voldoir. Pour ce reportage, et puis un mot encore en province, donc à Marseille, il y avait 45 000 manifestants, 12 000 sans doute à Toulouse et 7 000 à Bordeaux. François Hollande réaffirme qu'il ira jusqu'au bout de la réforme du Code du travail. L'ultime vote est prévu en juillet, mais on connaît déjà les grands principes de la loi sur la biodiversité, adoptée en troisième lecture aujourd'hui par les députés. On y trouve notamment l'inscription du préjudice écologique dans le Code civil. Bonsoir Hélène Masquelier.
Bonsoir.
C'est un principe qui revient de loin, Hélène.
Oui, l'idée du préjudice écologique remonte à quelques années. En 1999, l'Erika, ce pétrolier affrété par Total, fait naufrage au large du Finistère. 20 000 tonnes de fioul sont déversées sur les côtes. En 2012, après 10 années de procédure, la Cour de cassation reconnaît alors le préjudice écologique. En plus des dommages et intérêts accordés aux parties civiles, Total doit alors verser 200 millions d'euros pour le nettoyage des côtes bretonnes et vendéennes. La décision fait jurisprudence et pour graver à jamais le préjudice écologique dans le Code civil, le sénateur Bruno Retailleau, alors président du Conseil général de Vendée, dépose une proposition de loi. Puis c'est le jeu parlementaire, des années de va-et-vient entre le Sénat et l'Assemblée qui ne conduisent qu'à enterrer le projet. En 2013, Christiane Taubira tente, elle, de reprendre la main, mais sans succès. De tout cela, il ne reste donc qu'un article inclus dans le projet de loi à venir. Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. La réparation s'effectue en priorité en nature, c'est-à-dire une remise en état du milieu aux frais de celui qui l'a dégradé. Mais le responsable peut aussi payer des dommages et intérêts pour réparer l'environnement, de l'argent versé aux demandeurs ou par défaut directement à l'État. Reste encore à définir clairement ce qu'est un préjudice écologique et préciser qui peut demander des réparations. Mais en dépit de ces contours encore flous, la réapparition du préjudice écologique inquiète les industriels que ce principe du pollueur-payeur pourrait être à jamais gravé dans le Code civil les inquiète définitivement.
Merci beaucoup Hélène Masquelier. On va s'arrêter maintenant sur une injustice qui dure depuis 1948 et que Christiane Taubira avait voulu réparer. Après la guerre, 700 000 mineurs avaient mené une grève de 2 mois contre une baisse de salaire, mouvement très réprimé à l'époque qui a valu à 3 000 d'entre eux un licenciement abusif. Et en 2015, la garde des Sceaux avait fait passer un amendement dans la loi de finances afin que ces anciens mineurs soient enfin indemnisés. Bonsoir David Ravier.
Bonsoir Tara.
Si une partie des sommes a été versée, le dossier est maintenant au point mort et 31 mineurs encore en vie continuent à se battre.
Norbert Guilmez a 94 ans. En 1948, il a manifesté pour ne pas voir baisser son niveau de vie, ce ce qui lui a valu 15 jours de prison, la perte de son emploi, la perte de sa maison. Puis des mois de passage à vide. Les anciens mineurs avaient leur nom sur une liste noire, plus aucune entreprise de la région ne voulait d'eux. L'année dernière, Normer Guilmez obtient 30 000 euros de dédommagement, mais lui et les autres attendent toujours l'indemnisation des prestations chauffage et logement dont ils bénéficiaient quand ils travaillaient. Ce solde doit recouvrir 35 ans de manque à gagner, de leur licenciement jusqu'à leur retraite.
J'avais une retraite complémentaire qu'on ne m'a jamais remise, et après, le barème du chauffage-logement. J'ai déterminé ce que j'avais perdu. Chauffage-logement multiplié par deux, hein, ça faisait 105 000 et quelques, je me rappelle par cœur, et ma retraite complémentaire à 5 000 euros passés. Alors, on arrive pour moi à 600 000 euros. Hein.
Pierre Obouya est un enfant de mineur et lui aussi se bat pour la mémoire de son père.
Mon père, il est allé en prison 4 mois. 4 mois, sorti de là, pareil, on virait. Il faut partir de la maison et tout, donc on est parti. Et puis, ben, il s'est fait des petits boulots. Et puis, bon, la chance qu'il a eue, c'est 7 ans plus tard, les mineurs l'ont réélu délégué sécurité et autres. Donc, il a réintégré en 55 les mines. Donc, on est revenu. Mais nous, on a un trou de 7 ans pendant ce temps-là où manque à gagner, perte d'argent, plus de chauffage, plus de maison, plus de... Il y a quand même un gros trou. Et puis, bon, et puis ça fait un préjudice, c'est aussi bien moral qu'autre chose. Hein.
Quand son père meurt au début des années 60, Pierre Aubouillard ne savait rien. Son père n'avait dit à personne pour sa dégradation militaire, synonyme de honte et déshonneur pour l'ancien soldat qu'il était.
Mon père fait son service en 33, il revient, on le rappelle donc en 40. Il est prisonnier en Allemagne pendant 5 ans. Il revient, tout va bien, donc on n'entend plus parler de rien. Et puis en 50, de mémoire c'est 50, ben on reçoit un livret militaire dans lequel il est dégradé. C'est pas tout à fait logique de dégrader une personne pour un fait civil. Ça, déjà, je l'accepte pas. Et secondo, ben, il faut le remettre dans son grade, c'est tout. Donc, apparemment, c'est fait, c'est voté. Maintenant, j'attends un petit bout de papier qui me confirme qu'il est bien remis dans son grade. Il faut que j'aille au cimetière pour lui parler un petit peu, là.
Pierre Rebouilla veut redorer l'honneur de son père et celui des autres mineurs, ce qui représente à ses yeux bien plus que les compensations financières.
Merci David Ravier. C'est un peu la fin d'une époque à Canal+. Yann Barthès présentera ce soir son dernier petit journal. L'émission était née sous une version différente en 2004, plus exposée depuis 2011. Ce rendez-vous impertinent qui mêlait décryptage, sketch et parodie, tout ça autour de l'actualité, était forcément emblématique de l'esprit Canal+. Bonsoir Éric Chavroux.
Bonsoir Tara.
Depuis l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête de la chaîne cryptée l'été dernier, ce sont plus globalement toutes les émissions diffusées en clair sur Canal+ qui sont remises en cause.
Yann Barthès tire son irrévérence, titre Libération, et pour beaucoup c'est en effet l'esprit Canal historique qui finit de disparaître ce jeudi, un symbole de liberté éditoriale perdu alors que Michel Denisot est écarté, lui qui avait justement lancé la chaîne. Et Yann Barthès, il y a 12 ans dans son grand journal, apparaît cette chronique jusqu'à ce qu'elle devienne une émission suivie par des millions de fidèles à l'écran et sur les réseaux sociaux. Le petit journal séduit les jeunes, en particulier par son mélange d'informations et de divertissements, avec aussi bien des analyses politiques que des reportages de guerre, des comiques, qu'une scène musicale. Mais les politiques sont prompts à critiquer ce qui démonte leurs différentes mécaniques, et une polémique ira même jusqu'à la légitimité d'une carte de presse pour ces journalistes. L'émission de la chaîne la plus suivie en clair ne devrait toutefois pas disparaître, mais être confiée à Cyril Eldin pour une formule dont on ignore tout. Restera-t-elle accessible à tous en clair? Une chose est sûre, Vincent Bolloré ne jure que par le crypté pour regagner des abonnés. Le président du conseil de surveillance de Vivendi et du groupe Canal+ l'a encore déclaré hier au sénateur, la vitrine du clair, c'est des blagues. Autre programme irrévérencieux, historique, les Guignols sont déjà passés au payant dans la douleur en changeant d'auteur. Et à quelques mois de la présidentielle, ils pourraient carrément disparaître à la rentrée, tout comme le zapping, lui aussi lancé par Michel Denisot et qui sait être acerbe aux yeux de tous. Supprimé pour la première fois cet été, il pourrait être ensuite définitivement zappé.
Merci Éric Chavroux. La consommation de drogue reste stable à l'échelle mondiale. 250 millions de consommateurs. Du côté de la production, on va s'intéresser ce soir à l'Afghanistan avec vous, Anne Fauquemberg. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est un pays qui assure toujours 85% de la production mondiale d'opium, mais c'est un chiffre qui est en baisse, Anne.
Oui, la production mondiale a été ramenée à 4770 tonnes l'an passé contre plus de 7000 tonnes en 2014. Baisse de près de 40% qui s'explique par les faibles rendements réalisés en Afghanistan du fait des aléas climatiques. Une chute qui néanmoins n'a aucune influence sur le marché mondial. C'est une chute finalement en trompe-l'œil car les stocks d'opium restent importants et se conservent bien, explique Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS.
L'essence de pavot, hein, c'est-à-dire opium, C'est à partir de là qu'on on transforme ça en héroïne. Ça, on peut garder plusieurs années. Hein. Il suffit de le mettre dans un plastique et mettre dans une vase au sous-sol et le garder pendant plusieurs années.
Pour le spécialiste, la crise politique et sécuritaire que traverse le pays depuis le retrait de l'OTAN il y a 2 ans ne fait qu'encourager les paysans à faire pousser du pavot, notamment dans les provinces du Sud, dirigées par les talibans qui prélèvent une taxe sur cette culture. Culture qui se vend 4 à 5 fois plus cher que le blé. Elle est considérée dans ce pays comme un compte bancaire, la certitude de s'assurer un revenu en dépit de l'instabilité. Le gouvernement actuel n'a pas les moyens de s'y attaquer et n'en a pas franchement l'intérêt, tant cette narco-économie est finalement structurante. Un pays qui souffre néanmoins de la consommation d'opium, plus d'1 million de personnes dépendantes de l'héroïne. Les anciennes bases de l'OTAN à Kaboul sont désormais utilisées par les autorités pour abriter les toxicomanes.
Merci beaucoup Anne Fauquemberg. Un tout petit mot pour vous dire que la Cour suprême aux États-Unis inflige un camouflet au président Obama. Elle bloque plusieurs mesures qui protégeaient 5 millions de clandestins d'une expulsion. L'alerte aux orages est confirmée jusqu'à ce soir sur le nord-ouest du pays. Demain, le temps sera variable un peu partout et à 22h, ce sera Stanislas Vazak pour les informations.